notre cœur. Plutôt, c'est la parole de Dieu qui ouvre notre cœur. Et nous allons avoir une prière afin que Dieu, en nous parlant, nous arrache aux difficultés dans lesquelles nous sombrons parfois, jusqu'à en perdre la foi. Le seul lien vital qui nous reste, c'est la foi. Nous allons nous lever à notre place et prier le Seigneur. Par les Saintes Écritures, tu nous parles un langage que nous comprenons, une histoire proche de la nôtre, car tu es venu dans nos chemins, dans nos maisons, tu es venu dans nos souffrances, afin de nous apporter la porte qui ouvre sur le royaume éternel. Et cette porte, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, en cet après-midi, fais entendre tout au fond de nos cœurs ton magnifique appel « Dieu a tant aimé le monde » afin que nous entrions dans cet amour qui change tout, cet amour qui ressuscite, cet amour qui apaise, qui console, qui reconstruit. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis, et à relire avec moi les paroles de l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. Vous connaissez bien ces paroles. Je ne me souviens plus très bien dans quels Jeux olympiques, en Amérique centrale ou du Sud, les chrétiens s'étaient cotisés très cher pour faire défiler sur un écran « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Parce qu'on savait qu'en faisant défiler ce verset, des milliards d'êtres humains allaient le lire. Et ce verset, oui, résume, contient tout le mystère chrétien. On a tout en résumé. On lit ensemble ? Jean, chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Permettez-moi de relire devant vous, avec vous, ce verset 16, qu'on apprend parfois dans les écoles du dimanche aux enfants, parce que en connaissant ce verset, ils ont tout le déroulé de la mission de Jésus parmi les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça commence par Dieu. Dieu a fait le premier pas. Dieu nous a aimés le premier. Nous n'avons pas aimé Dieu, dit l'apôtre Jean. C'est lui qui nous a aimés. Que signifie l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est Dieu qui donne éternellement de lui-même. Il ne cesse de donner de lui-même. Il nous a créés pour nous aimer, pour tout nous donner, comme des parents qui travaillent pour laisser un héritage aux enfants. Il nous a créés pour vivre avec nous dans la paix toujours. Dieu a tant aimé le monde, mais quel monde ? Un monde pollué, un monde de guerre, de souffrance, un monde difficile à aimer. Il est facile d'aimer ceux qui nous ressemblent, nos amis. Si Dieu avait tant aimé son Fils, et il l'a tant aimé, mais que fait-il d'extraordinaire ? Si Dieu seulement a tant aimé les anges, que fait-il d'extraordinaire ? L'extraordinaire, c'est que nous n'avons pas aimé Dieu et que nous sommes un monde aimé, un monde pourtant en perdition. En perdition, cela signifie un monde qui refuse son amour, qui s'éloigne de lui, comme la fleur s'éloigne de l'eau. Ce monde-là, Dieu n'a pas attendu qu'il ait réglé tous ses problèmes. Dieu n'a pas attendu que nous sortions du péché, que nos foyers soient bien, que nos enfants soient très bien et que notre mari soit parfait ou notre femme. Dieu est intervenu dans notre monde, un monde capable de faire mourir les hommes, pourtant à l'image de Dieu. Il a tant aimé ce monde difficile, repoussant, n'a pas changé le cœur de Dieu. Dieu n'a pas dit « je vous aime moins ». Quand on aime toujours. L'amour de Dieu ne change pas, ne varie pas d'un iota. Si l'amour de Dieu variait, j'aurais peur qu'il m'aime moins demain. Il nous aime toujours, quelle que soit notre vie. Il a tant aimé, il a tellement aimé. C'est dans l'incompréhensible. Ça dépasse la mesure humaine qui aime souvent ceux qui les aiment. Dieu dit dans la parole de Dieu, « Je t'aime d'un amour éternel. » Ce qui veut dire, « Je t'ai aimé avant que tu naisses, avant que tu fasses le bien, avant que tu fasses le mal. » Ce monde-là, Dieu l'aime. Notre monde. Un monde qui dit, je reprends les paroles des psaumes, il n'y a pas de Dieu. Voilà. Un monde qui dit Dieu ne punit jamais. On fait ce qu'on veut. Dans un monde où aucun fait le bien, dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, aucun fait le bien, on a perdu le sens. Notre gosier, dit l'apôtre Paul, est comme un tombeau ouvert. Ce qui veut dire que quand on parle, ça sent la mort, ça sème la mort. Eh bien, ce monde-là, Dieu l'a tellement aimé. Pas d'un amour mièvre, mais un amour qui secourt, qui redresse, qui console, qui va au-devant des affligés, qui tend la main. Je ne comprends pas l'amour sans connaître Dieu. C'est le plus parfait dans l'amour. On comprend l'amour quand on connaît Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donner, ça ne veut pas dire simple visite, bonjour. Donner, cela veut dire donner dans la mort. C'est le sens de l'Évangile, donner dans la mort. Jésus est devenu humain, chair, et il a été donné dans notre humanité et dans la mort. Ici, Jésus ne dit pas « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ ». Il ne se nomme pas. Il veut simplement dire « Dieu a montré son amour ». Un amour, ça se voit. Un amour, ça se reçoit. Et le Christ nous a montré son amour. Il a réglé la séparation douloureuse qui existe depuis le commencement entre les hommes et Dieu. Il y a une séparation qui nous fait pleurer, crier, qui nous fait parfois jurer contre Dieu. La séparation, on la ressent dans notre chair. Il est devenu homme pour nous réconcilier. Ce qui veut dire que notre monde a une valeur, on pourrait presque dire, qui dépasse même l'importance du Christ. Dieu a estimé nécessaire que son Fils meure pour nous sauver. Comme si nous avions plus de valeur à ses yeux que son propre Fils. Notre vie a de l'importance. Chaque parole, chaque pensée, chaque rêve, chaque souffrance a de l'importance. Notre valeur à nous, ce n'est pas notre intelligence. Notre valeur, ce ne sont pas nos capacités physiques, intellectuelles. Notre valeur, c'est d'avoir été aimé en relation avec Dieu, prédestiné à être des enfants adoptés. Notre valeur, c'est que nous sommes des enfants adoptés, des enfants chéris, pour lesquels il ouvre grand ses portes. Dans ce naufrage de notre humanité, le secours de l'homme n'est que vanité, dit la Bible. On ne peut rien faire. L'homme n'a aucun moyen pour arrêter le mal, aucun moyen pour relever ce qui tombe dans le mal, ce qui se détruise. Le seul pouvoir de salut est dans les mains de Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Et pour sauver le monde, il a fallu que Dieu sorte. Il est sorti de lui-même. Il est sorti du ciel. C'est Jésus. Il a souffert. Il a souffert sur la croix. Mais la souffrance de Jésus n'est pas une monnaie d'échange. Jésus n'a pas dit « je vais souffrir beaucoup pour que vous soyez sauvés ». Ce n'est pas comme cela que ça se passe. La souffrance exprime surtout l'amour de Jésus pour nous. C'est l'amour qui nous sauve. Ce n'est pas la quantité de souffrance. Ce n'est pas œil pour œil. C'est le poids de son amour pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire chacun de nous. Au début, Dieu a dit « faisons l'homme à notre image ». Et pour que nous soyons à l'image de Dieu, Dieu s'est fait à notre image. Dieu est descendu dans la douleur. Dieu est descendu dans l'obéissance, dans la pauvreté, dans l'humanité, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique dans la mort, parce que cette mort était une nécessité, une nécessité. Nous ne comprenons pas très bien. Il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. Souvent, il disait ce « il faut », comme si c'était vraiment la seule solution pour Dieu pour régler ce fossé qu'il y a entre Dieu et nous, nécessité d'un amour donné, d'un amour abandonné. On a trouvé un jour une poule, il y a eu un incendie dans une ferme, dans un corps de ferme, et on a trouvé une poule qui était asphyxiée. Et sous ses ailes, il y avait ses petits, qui était vivant. La poule a donné sa vie. C'est petit par rapport à Jésus. Elle a donné sa vie pour protéger les petits poussins. Ainsi est le Seigneur. Jésus nous attire à cette croisée, à cette croix où tout est accompli. Parce que ce jour-là où Dieu se donne, il nous déclare, c'est ainsi, vous ne pourrez pas dire autre chose, il nous déclare enfants de Dieu. Comme quelqu'un, un enfant naturel qui naît et quelqu'un à la mairie le déclare, c'est mon fils. Dieu nous a dit, vous êtes mes enfants. Il nous a rendus justes, déclarés justes, enfants, fils, filles de Dieu. C'est une déclaration de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'on soit des fils et des filles. C'est grandiose, c'est beau. Où serait le monde sans ça? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Croire, quiconque. Personne n'est privilégié. Personne n'est disqualifié. Personne n'a un avantage plus que d'autres. Personne n'a un désavantage plus que d'autres. Personne n'aurait un péché trop grand, une infirmité trop grande pour ne pas être accepté par l'amour de Dieu. Quiconque. Ce qui veut dire vous et moi. Nous sommes appelés, attendus, invités. Quiconque croit, beaucoup m'ont dit, mais monsieur, je ne sais pas croire. Je ne comprends pas ce que veut dire croire. Je ne crois pas. Je m'efforce, mais je n'y arrive pas à croire. Rassurez-vous, Dieu nous donne la capacité de croire. Dieu nous donne la faculté de croire pour accueillir tant d'amour, tant d'avenir, tant de bonheur. La foi, c'est un don de Dieu. Quand nous fermons les paupières, malgré que nos paupières soient fermées, nous voyons un peu de lumière. C'est un peu clair. On ne voit rien, mais on devine la lumière à travers les paupières. Et quand on entend l'Évangile, sans tout comprendre, sans tout voir, quand on ouvre un peu son cœur, on discerne, on comprend, on voit la lumière. Nous avons tous la faculté de voir assez de lumière pour ouvrir les yeux sur Jésus, tous. La foi, c'est un sentiment d'abandon entre dans les mains de Dieu, sentiment, un état de confiance. On lui fait confiance. On sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il dit. Alors on lui fait confiance. C'est un don, la foi, que nous recevons en écoutant l'Évangile. Ça vient de la parole de Dieu, la foi. C'est un message qui est conduit par Dieu dans nos cœurs et qui frappe à notre porte et on en entend le frappement. On entend les accents d'amour de Dieu à travers notre porte. Dieu met dans nos cœurs la foi pour comprendre, la foi pour prendre sa main. Croire, c'est croire tout ce qu'il a dit. C'est croire tout ce qu'il a fait. C'est croire tout ce qu'il est. C'est ça la foi. C'est croire qu'il est vraiment venu de Dieu et qu'il est le Sauveur, notre Sauveur. La foi, c'est la conscience de sa présence avec nous. La foi, c'est un consentement. On dit oui. Seigneur, viens à mon aide. On dit oui. Il y a un consentement. La parole de Dieu, l'Évangile, donne la foi. Quiconque croit, en lisant l'Évangile, j'ai reçu la foi. Ce n'est pas une histoire cachée, obscure, mystérieuse, au-dessus de nous. Elle croise nos chemins, nos disputes, nos tragédies, nos joies, nos peines. Elle est proche de nos cœurs. Elle est proche des gens exclus, des lépreux de l'Évangile. Elle est proche des aveugles de cœur. Elle est proche des morts de cœur. Elle est proche de ceux qui sont blindés dans l'alcoolisme, la drogue, la violence. Elle est proche des captifs, des enfants. Elle va dans les taudis, dans les cavernes, là où sont réfugiés les fils prodigues. La parole, elle s'adapte, elle est à la portée de tous. Et l'entendre, c'est recevoir le cordage d'amour qui nous tire vers le Seigneur. Quiconque croit, il y a quand même une crise là. Parce que cela veut dire qu'il n'y a pas de contrainte. C'est un appel sans contrainte. Cela signifie que nous pouvons refuser. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, celui qui veut croire, celui qui veut, il peut. Mais il faut vouloir. Et là, nous avons un moment à passer douloureux pour celui qui annonce l'Évangile. Quelqu'un peut refuser. Afin que quiconque croit, cela signifie que si nous refusons, nous allons continuer notre route vers, la Bible dit, vers la perdition, vers une ruine éternelle. Car ce que nous sommes sur la terre, nous le serons dans l'éternité. Si nous sommes loin de Dieu ici, nous serons loin de Dieu après. Parce que Dieu ne prendra pas nos vies comme des ballots pour nous mettre sur un chariot, il nous prendra parce que nous aurons tendu nos mains vers lui. Croire, c'est vouloir que Dieu nous saisisse. Quiconque croit en lui. Je continue, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ne périsse pas. Ce mot qui fait frémir, périr, ce mot qu'on ne voudrait pas, mais ce mot qui est dans la Bible. Périr, cela veut dire mourir, ruine éternelle. Notre vie est appelée à durer. Seul Dieu a la capacité de nous donner l'immortalité. Seul le Christ donne l'immortalité, la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une vie avec des jours qui ne finissent pas. Quand il pleut deux jours, on s'ennuie déjà. On s'ennuie. Alors la vie qui dure 2000 ans, 4000 ans, 2 milliards d'années, on finira par s'ennuyer. Ce n'est pas de la vie à rallonge, la vie éternelle. C'est la vie avec Dieu. C'est la vie comme des enfants de Dieu heureux dans la maison d'un Père magnifique. Et là, on ne s'ennuie pas. Parce qu'il y a toujours à dire quelque chose. Il y a toujours à faire. Il y a toujours à vivre quelque chose. Si on nous met dans une case, dans le ciel, pour des milliards d'années tout seul, là, c'est difficile à vivre. Mais la vie éternelle, c'est une relation sans cesse. On vit avec Dieu. On vit chez lui. Et la vie éternelle, c'est déjà commencé. À l'heure où je vous parle, depuis quelque temps, c'est commencé. C'est au moment où nous croyons. Celui qui croit a la vie éternelle. C'est commencé aujourd'hui. En quelque sorte, la mort est déjà derrière nous. Elle a été portée par le Christ à la croix. Et maintenant, nous sommes déjà en train de vivre avec Dieu qui dit « J'habiterai chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Il est déjà avec ceux qui croient au Fils unique. » Toutefois, on n'est pas encore dans le grand bonheur à venir. Nous sommes toujours dans l'attente, dans l'espérance. C'est déjà là et pas encore là. La vie éternelle, c'est déjà là parce que je crois, mais ce n'est pas encore là, parce que j'attends la transformation complète de mon corps, de mon âme, de mon esprit, de mes pensées. Nous sommes comme la libellule. Quand la libellule sort de sa larve, elle sort d'abord les yeux, la tête, après c'est les pattes, après c'est les ailes, elle sort par petits bouts. Et je crois que pour l'instant, on a dû sortir la tête, c'est le plus important. Dans la vie éternelle, on entend Dieu, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, on aime Dieu, mais il y a encore les pattes à sortir, et les ailes, dans la vie éternelle. On y va par transformation successive. On se transforme de jour en jour à sa ressemblance. Parce que quand nous le verrons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce Fils unique. Ce Fils unique, quand nous le verrons, en un instant, en un clin d'œil, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables. Je n'ai pas dit comme lui. On ne sera pas fils de Dieu comme lui, on sera semblable, on lui ressemblera. Ce n'est pas parce que je ressemble à quelqu'un, à ma mère, que je suis comme ma mère. Nous serons semblables, on ressemblera. Ainsi, chers amis, ce verset vous a tout résumé. Et il y a deux grandes réunions avec le Christ qui changent vraiment l'histoire humaine. La première réunion avec lui, la première rencontre avec lui, c'est la croix où Jésus-Christ donne sa vie. Je dis la croix, mais je veux dire aussi l'incarnation, la résurrection, la passion. Là, quand il prend en main notre destin éternel, quand je sais ces choses, quand j'y consens avec mon cœur à dire oui, c'est la vérité pour moi, eh bien là, c'est la première rencontre où il me donne sa vie, de la vie. Et la deuxième grande rencontre, c'est son retour, que nous attendons tous. Ce retour où il nous prendra avec lui. Et là, nous serons semblables à lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pas simple, c'est pas avec un amour distrait, un amour lointain. Le vrai amour, il descend et il fait corps avec celui qu'il aime. Le vrai amour, il descend dans les plus terribles détresses pour dire « Je te comprends, je te tends la main ». C'était une descente extraordinaire, une descente que les mots, je n'ai pas de mots pour expliquer. La descente de Jésus dans notre monde. Mais il remonte, il remontera, il remonte, je conjugue à tous les temps, avec des millions, des milliards d'enfants, les bras chargés d'une moisson d'hommes, de femmes, de jeunes, de personnes âgées, chargés de fatigue, de douleur. Il remonte vers son Père avec les enfants qu'il a tant aimés, nous. Dans ce verset, il y a deux mots importants, nous les avons expliqués. C'est le mot « aimer », Dieu a tant aimé, et le mot « donner ». Si on aime, on donne, on se donne. On n'aime pas à distance, par correspondance. On aime et on donne. Jésus, Dieu, a donné. Il y a dans le Christ l'amour miséricorde, c'est-à-dire un amour pour ceux qui sont dans le malheur. Il y a dans le Christ un amour grâce envers ceux qui méritent d'être punis et Dieu leur fait grâce. Il y a dans le Christ un amour patience, ceux qui persistent dans le mal et qui ne se convertissent pas, et Dieu ne les punit pas, et ça c'est l'amour patience. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a l'amour miséricorde de Dieu sur la détresse du monde. Il y a l'amour grâce qui ne punit pas aujourd'hui. Et puis, il y a l'amour patience qui nous attend et qui vous attend. Approchez-vous. Approchez-vous de Dieu pour trouver grâce, miséricorde et patience dans tous vos besoins. Parce que Je ne suis pas un habile écrivain et un poète, mais si je pouvais l'être, j'essaierais de décrire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu vous aime. Quel réconfort. Inclinons nos têtes, fermons nos yeux, prions quelques instants le Seigneur. Laissons-nous saisir, toucher, parce que faire devant cet amour? Croire pour moi, c'est aimer Dieu. Si je crois, ce n'est pas la foi intellectuelle, mathématique. J'aime Dieu parce que je crois en lui. Alors à cet amour, répondons par « Je crois, Seigneur, je t'aime ». Et peut-être qu'il faudrait ajouter pour certains « Viens au secours de mon incrédulité ». Parce que malgré cet univers d'amour, j'ai quelques doutes que tu m'aimes. Eh bien, viens au secours de mon incrédulité. Un homme un jour a prié ainsi, et Dieu a répondu. Nous allons fermer quelques instants les portes qui donnent sur le monde, ouvrir la petite porte qui monte, qui va sur le ciel, et on va prier Dieu ensemble. Amen. Ton amour vaut plus que toute chose. Nous n'avions pas besoin que tu nous donnes le monde entier. Nous avions seulement besoin que tu nous donnes ton Fils, toi-même. Avec le monde entier de gagner, nous serions encore perdus et nous n'aurions rien pour nous sauver. Ce dont nous avions besoin, hier comme aujourd'hui, c'est de toi, Seigneur. Toi avec nous, en nous, à côté de nous chaque jour. Seigneur, apaise nos tourments, guéris nos souffrances, mets ta lumière dans nos maisons, que l'amour brille sur nous, nos enfants, nos familles, sur l'Église. Que ton amour brille dans le monde souffrant d'aujourd'hui, au milieu des tragédies dont nous sommes témoins, que l'amour brille à travers les humains qui ont confiance en toi. Merci pour ta parole, merci pour cette main tendue par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître pour toujours. Amen. Restons quelques instants dans le silence de l'amour. On n'a pas besoin de beaucoup parler pour dire qu'on s'aime. Dieu nous a beaucoup parlé, mais aujourd'hui, à travers ces quelques mots, vous avez compris. On va rester quelques instants dans le silence, peut-être pour se dire au fond de nous-mêmes, il me manque ta présence en moi. Il me manque ton soutien, la force de tes paroles, de tes promesses, pour consoler, pour remplir une place vide dans ma vie, pour remplir ma maison de joie et de fête. Une absence et tout est dépeuplé. Et qui pourra remplacer celui qui est parti? Est-ce une personne ou Dieu lui-même? Oui. Ils seront consolés par la présence de Dieu. Mettons donc notre cœur en prière et pendant quelques instants, nous allons prier afin que l'amour de Dieu qui nous donne tout, qui répare toute situation, l'amour de Dieu qui comble tout, réponde à vos besoins. Chers amis, frères et sœurs, si vous souhaitez que je prie pour vous le Seigneur, parce qu'il nous a fait cet ordre, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors je vous inviterai à vous lever à votre place et je prierai pour vous ce Dieu qui vous a tellement aimé, et qui vous aime toujours de la même façon, de la même façon. Levons-nous donc, si vous le souhaitez, et je prie pour que sa main forte qui a suscité les mondes saisisse votre main fragile. Je prie pour que tout ce qui en vous s'est affaissé soit à nouveau rempli d'enthousiasme, d'espérance, de consolation, de joie, la joie d'être avec, être avec Dieu et les autres. Étends tes mains sur mes amis qui se sont levés, Seigneur. Étends tes mains sur leur tête, sur leur esprit, sur leur maison. Étends tes mains parce que tu les aimes, tu les as toujours aimés d'un amour éternel, tu les aimeras toujours. Et ton amour, c'est un amour actif qui agit, qui transforme, qui relève, qui change. Change leur tristesse en allégresse, change leur chagrin en joie, leur souffrance en force, leur faiblesse en force. Touche-les dans leur corps, dans leurs enfants, dans leur famille, dans leur milieu professionnel, communautaire. Touche-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.